Radio Okapi.
Au moins 5 villages se sont vidés de leur population hier soir autour de Rumangabo, un groupement Kisigari, territoire de Rutshuru au nord Kivu. C'était à la suite d'une vive tension hier soir provoquée par la reprise des affrontements entre les FARDC et le M23 depuis lundi dernier. La deuxième phase de vaccination contre la polio s'est achevée lundi dernier dans le territoire de Banalia, mais elle s'est butée à une résistance farouche dans les villages les plus reculés du chef-lieu de cette entité situé à 125 km au nord de Kisangani, nous informe l'administrateur de ce territoire, Joseph Orivoire Tenafango. Enfin, les médecins de Kalemie dans le Tanganyika ont durci le mouvement de grève déclenché par le SINAMED, syndicat national de médecins. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Dr Paul Kapami, secrétaire exécutif adjoint du SINAMED Kalemie. Voilà tout pour le sommet. Bonjour à tous. Au nord Kivu, au moins 5 villages se sont vidés de leur population hier soir, autour de Rumangabo, un groupement Kisigari, territoire de Rutshuru. C'était à la suite d'une vive tension hier soir provoquée par la reprise des affrontements entre les FARDC et les M23 depuis lundi dernier dans cette région. Le porte-parole des opérations Sukula 2 promet de réagir incessamment. Plus de détails avec vous, Alain Rung.
Après une brève accalmie observée lundi soir, les affrontements ont repris dans la matinée hier mardi entre l'armée et les rebelles du M23 dans la localité de Kanombe, tout près de Kabaya, affirment plusieurs sources locales. Des tirs nourris ont été entendus jusqu'au soir et ont provoqué une psychose dans la région, ce qui a occasionné un déplacement massif des populations toute la soirée. C'est notamment la population de Kabaya, Kanombe, Nkonkwe, Rubumba et ailleurs. Désemparées, celles-ci se sont dirigées vers Rumangabo Monument, Katale, Bushenge et Bugomba sur l'axe Goma-Rutshuru. Des sources dans la région affirment que les rebelles du M23 auraient renforcé leur position en troupes et munitions, ce qui ravive l'inquiétude de la population.
Toujours au nord Kivu, il y a eu un échange de tirs entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise hier mardi au village Murambi, précisément à la borne 11. C'est dans le groupement Munigi en territoire de Nyiragongo. À la base de cet incident, le RDF aurait accusé les FARDC d'avoir facilité le mouvement d'un petit commerçant transfrontalier clandestin à franchir la frontière. La société de Nyiragongo déplore ces multiples incidents qui deviennent récurrents entre les deux armées. Elle appelle le gouvernement congolais à prendre des dispositions qui s'imposent pour sécuriser les frontières congolaises dans cette partie du territoire. Pierrot et la Mégie.
Tout est parti d'une incompréhension occasionnée par un petit commerçant transfrontalier appelé communément Chora Chora qui a traversé clandestinement la frontière au niveau de la borne 11. Subitement, le militaire rwandais commis à la surveillance de cette frontière a ouvert le feu sur les militaires congolais. Ces derniers auraient riposté, ce qui a occasionné un échange de tirs de quelques minutes entre les deux armées. Si aucun dégât n'a été enregistré, ces tirs ont créé une panique générale parmi la population de ces villages qui, du coup, a cru à une incursion. Le commandant peloton des FARDC a pris langue avec celui du Rwanda et aussitôt, le calme est revenu. Le porte-parole du gouverneur en mission à Kinshasa dit ne pas être informé. La société civile de Nyiragongo déplore et condamne cet acte. Elle demande au gouvernement congolais de mettre de l'ordre au niveau de cette frontière et d'augmenter les effectifs militaires. C'est là, dit-elle, pour mettre fin aux dérapages multiples que commettent les militaires rwandais sur les sols congolais. Signalons que cet incident s'ajoute aux deux autres enregistrés ces deux dernières semaines dans ces territoires impliquant l'armée rwandaise.
Pendant ce temps en Ituri, le gouverneur de cette province interdit à tous les responsables des milices signataires de l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités de circuler avec leurs armes dans les différentes entités du territoire de Djougou et d'Irumu. Le général, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama a communiqué cette décision mardi au cours d'une réunion du comité provincial de sécurité à laquelle ont pris part des commandants des différentes unités des FARDC. C'est à la suite de plusieurs des actions enregistrées ces derniers jours et dont sont auteurs des assaillants qui circulent avec leurs armes parmi la population. Le point avec Martial Kizabiamungu.
Tout est parti dès l'entrée spectaculaire le dimanche dernier d'une dizaine de miliciens de la FPIC munis de leurs armes à Lengabo, à la périphérie sud de Bounia, ce qui avait créé une panique parmi la population. D'autres exactions des assaillants de la Codeco, des FRPI et des FPIC sont plusieurs fois enregistrées contre des civils dans les territoires de Djougou et Irumou. Tous ces trois groupes armés sont signataires d'actes d'engagement de cessation des hostilités. Pour les gouverneurs des provinces, le général Johnny Lobuya Kachama, cité par les commandants de la 32e région militaire, l'acte d'engagement ne signifie pas le libertinage. Il a instruit à cet effet tous les commandants des unités d'amener ces miliciens à se conformer à cette disposition et d'éviter tout mouvement armé parmi la population. Pour rappel, depuis la signature des actes d'engagement par les groupes armés Codeco, bar IRDPC et de la FPIC, plusieurs de leurs éléments ont quitté leur maquis pour regagner leur village respectifs avec leurs armes. Leur présence non seulement crée une confusion avec les forces de l'ordre, mais aussi accentue la psychose parmi les civils. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Entre-temps, à Béni, une messe pour la paix a été dite hier mardi à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, en présence de l'évêque du diocèse de Boutembo Béni. Ont participé aussi à cette messe les enfants des 45 chœurs de Pueri Cantores, venus de Mutuanga, Kanyabayonga, Lume Oisha, Karuruma, Boutembo, ainsi que ceux de la ville et territoire de Béni. Pour l'évêque du diocèse de Boutembo Béni, la paix que nous demandons, c'est pour ces enfants, pour qu'ils vivent dans un Nord-Kivu meilleur où la paix règne. Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek est au micro de Marc Marufimbo.
Je suis venu pour qu'avec les enfants, nous puissions montrer au monde entier que ici, nous n'avons qu'un vœu, qu'un souhait, c'est de recouvrer la paix. Cela doit commencer, doit partir de chacun de ces enfants, parce que la paix que nous demandons, c'est d'abord pour eux. Il faut qu'ils vivent dans un Congo meilleur que celui dans lequel nous vivons. Qu'ils vivent dans une province du Nord Kivu meilleure que celui d'aujourd'hui. Dans une ville de Béni, de Oicha et dans un territoire où la paix règne, où le sang cesse de couler. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo nous appartient et il faut que ces enfants, dès aujourd'hui, prennent conscience que c'est eux qui doivent se comporter à responsables pour que cela puisse se réaliser. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir vivre dans des conditions de bien-être pour tous.
Notons également que cette grande messe a été dite aussi à l'occasion du 24e anniversaire d'épiscopat de l'évêque du diocèse de Boutembo Béni, ceci depuis le 2 août 1998. Nous l'avons dit au sommaire. Dans le territoire de Banalia, la deuxième phase de vaccination contre la polio s'est achevée lundi dernier. Elle s'est butée à une résistance farouche dans le village le plus reculé du chef-lieu de cette entité, situé à 125 km au nord de Kisangani, selon Joseph Orivoir, Tenafango, administrateur de territoire de Banalia. Les leaders communautaires, les chefs de certaines églises locales ainsi que quelques individus exigent des explications claires sur la récurrence de la vaccination des enfants au cours d'une même année. Il a été joint au téléphone par Jacques Moukonkolé.
Il y a des cas de résistance et de routine où certaines personnes se demandent pourquoi il y a des successions de vaccination. Il y a eu vaccination contre la COVID, il y a eu contre la méningite, il y a eu contre la région, il y a eu contre la rougeole, première phase de VPO, deuxième phase de VPO. Alors vraiment, la population dit, mais ça devient autre chose. Au niveau de la route à Limbuku, il y a un monsieur qui s'appelle Ndiriti, qui a même chassé les acteurs de vaccination. Ils disent qu'ils ne sont pas de Banalia. Nos acteurs sont partis là-bas et ils refusent. Est en train de poser une résistance farouche. Il est à Nyonga, une carrière là-bas, vers Ali Boukou là-bas. Bon, ici à Filondo, il y a des gens qui refusent et on a envoyé la police. Et il y a aussi des églises, des sectes comme les Kikawalis aussi, et les témoins de Jéhovah qui opposent des résistances. Mais nous nous sommes déplacés jusque-là. On a même arrêté les chefs spirituels de l'église.
Autre nouvelle, près de 200 jeunes délinquants de la ville de Kolwezi ont été transférés ce mercredi à Kanyamakassese dans le Haut Lomami. Ils devront y apprendre un métier pour être utiles à la société. Ils ont été arrêtés dans le cadre de l'opération Zéro délinquant dans la ville de Kolwezi. La décision de leur traque avait été prise au cours du Conseil provincial de sécurité au regard de la recrudescence de la criminalité observée notamment à Kolwezi. La Commission nationale des droits de l'homme, bureau de représentation du Lolaba, salue cette initiative mais déplore cependant le dérapage de la police qui aurait mis la main même sur les jeunes non concernés par cette opération. On écoute Arthur Kaboulo, coordonnateur provincial de la CNDH, Lolaba, joint par Jean Ngandou.
Oui, au Lolaba, les autorités ont lancé une opération dénommée « Délinquant zéro » dans la ville de Kolwezi. Une bonne initiative que la CNDH a louée, nous les avons sollicités, mais néanmoins sur terrain, il se constate beaucoup de dérapages pour les gens commis à effectuer ces opérations. S'il faut prendre le cas des exploitants artisanaux que nous appelons créseurs, un monsieur qui quitte son boulot avec une tenue appropriée, voulant traverser la ville, et celui-là est intercepté comme délinquant. Donc en service spécialisé, de bien faire leur travail, identifier. Et c'est fait qu'il y a, ce qu'on a vu dans les images, il y a des enfants qui sont embarqués dans des véhicules. On ne connaît pas la raison. Oui, cette pratique frise la violation, le principe fondamental des droits de l'homme. Ce qui n'est pas bon. On continue à monitorer sur la question.
Pour le gouvernement provincial de Lualaba, après leur arrestation, la police nationale et une commission du service national ont procédé au tri. Ceux qui n'étaient pas concernés ont été tous libérés. Pour leur bon encadrement, les mineurs ont été placés dans les centres spécialisés tenus par des réfugiés. Et puis cette nouvelle, le concours Miss Kivu, première édition, a été remporté par Ida Marindi ce dimanche 31 juillet. Et ce concours de beauté ne promet pas seulement le leadership féminin et la paix, mais aussi et surtout le vivre ensemble dans le Grand Kivu. La nouvelle icône de beauté du Kivu s'est fixée comme objectif de sensibiliser les jeunes sur la paix et son importance dans la partie est de la République démocratique du Congo. Agronome de formation, la nouvelle Miss souligne qu'elle va mettre en place un projet d'initiation de jeunes filles à la transformation des fruits en jus. Ida Mirindi est au micro de Rachel Kessembangou.
Je vais pratiquer notre Temumoja en mettant en œuvre mon projet qui consiste à initier les jeunes filles à l'entrepreneuriat. Je vais leur apprendre la production et la commercialisation de jus à base de fruits pour ainsi faire leur source de revenus. Alors, je ne vais pas seulement me limiter à mobiliser les filles de Bukavu, je vais aussi contacter celles de Goma. Nous allons commencer par des rencontres pour exposer à toutes ces filles mon projet pour voir si elles seront intéressées ou pas. Après, on pourra passer à la mise en œuvre. Moi, en tant que Miss Kivu, je vais faire de mon mieux, je vais parler aux gens, je vais faire ce que je peux, je vais sensibiliser les autres jeunes, les jeunes filles, les jeunes garçons, je vais essayer de les sensibiliser et de les parler de la paix, de les montrer comment, malgré nos différences, nous pouvons cohabiter ensemble et ainsi ramener la paix dans notre pays.
Toujours au sud Kivu, une kermesse de découverte baptisée Ouvira Fiesta, initiative des jeunes de l'entreprise Mec Business, a lieu à Ouvira. L'activité, commencée au début du mois de juillet, profite à près de 200 jeunes employés de divers services en cette période de grandes vacances. Les initiateurs de l'activité soulignent que l'objectif est d'initier les jeunes à l'entrepreneuriat et de promouvoir celui-ci. Fiston Goma.
30 emplacements tenus en majorité par des jeunes organisent des services de restaurant. On peut trouver ici des produits brassicoles, un mini-marché, une petite entreprise d'eau minérale Ngovi produit localement à Ouvira. Une librairie est aussi disponible pour donner accès à la lecture. On peut y acheter des livres et autres articles intellectuels. L'objectif est de faire la promotion des petites entreprises locales. Le directeur commercial de Mec Business est l'Indigoza héritier, 28 ans.
C'est une kermesse scientifique avec l'objectif de permettre à l'épanouissement de la jeunesse, la cohésion sociale et l'entrepreneuriat des jeunes. Je pense que les jeunes d'Ouvira doivent éviter d'être traités, d'avoir une connotation de désordre. Si nous, jeunes vivant avec handicap, nous décidons d'avancer, pourquoi à forte raison ceux qui n'ont pas d'handicap? Et donc, si on veut faire quelque chose, on doit quand même avoir l'ambition, la vision.
Cette première édition Ouvira Fiesta est une innovation dans la région ici. Mec Business travaille dans l'immobilier et le commerce général. Son directeur général, Paul Magarama, lance un appel aux bienfaiteurs de soutenir les initiatives entrepreneuriales plutôt que d'entretenir les troubles par la manipulation des jeunes. D'Ouvira Fiston, Mamaya Bala, Radio Kapi.
Pendant ce temps, la ville de Mbandaka se prépare à la tenue d'un festival dénommé Évasion culturelle. En prévision de cet événement prévu au mois d'octobre prochain, il se tiendra d'abord un atelier de tous les acteurs culturels au 31 août prochain. L'annonce a été faite hier mardi par le coordonnateur national du Cercle des Amis de la Culture et de l'Excellence, Jules Molasso, qui est aussi le président de Festami, Festival du Théâtre, de l'Animation et de Musique en milieu universitaire, a à cet effet invité tous les artistes du Grand Équateur à s'identifier dès à présent auprès des services de culture et art de leurs provinces respectives, ce en vue de prendre part préalablement à cet atelier. Jules Molasso a lancé l'appel au micro de Paul Richard Malingela.
Sur le plan culturel, Mbandaka demeure comme chef lieu de Grand Équateur. Nous avons voulu relancer la ville de Mbandaka. Par Mbandaka, nous voyons tous les Grands Équateurs parce que c'est ici que tout était fédéré. Toutes les valeurs ethniques, tribales, provinciales, rythme et danse, art de parler. En tout cas, nous avions voulu quand même maintenir le cap. Et que ce qui est conçu, exploité, diffusé ici, puisse aussi être également transporté ailleurs par ceux qui veulent consommer la culture. L'homme a besoin de la culture comme on a besoin de manger et de boire. C'est un appel que nous lançons. Tout celui qui se reconnaît homme de culture, faiseur de culture, artiste, peu importe la tendance, il y en a d'autres qui sont polyvalents, musiciens, comédiens, peintres, danseurs, même les modélistes, tous les photographes, ils sont concernés. On ne mettra personne en marge. Mais il faut qu'ils viennent voir les organes techniques de l'État où ils vont pouvoir se faire identifier. Tout le monde aura son badge, tout le monde aura son brevet reconnu par le gouvernement provincial.
Les artistes ou opérateurs culturels intéressés peuvent aussi appeler directement au 081 77 77 910.
Actualité internationale.
La Chine a affirmé ce mercredi 3 août que ses exercices militaires prévus près de Taïwan étaient nécessaires et légitimes après la visite sur l'île de la présidente de la Chambre des représentants américains, Nancy Pelosi. Ces exercices qui s'approcheront jusqu'à 20 km des côtes taïwanaises constituent une mesure nécessaire et légitime afin de répliquer aux graves provocations de certains politiciens américains et des indépendantistes taïwanais, a déclaré à la presse Hua Shuying, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
L'invité.
À Calémie, les médecins durcissent depuis ce mardi le mouvement de grève déclenché par le syndicat national de médecins Sinamed. Pour en parler, nous recevons dans cette édition Dr Paul Kapami, secrétaire exécutif adjoint du Sinamed et Calémie. Il s'entretient ici avec Paulin Mounanga. Suivez.
Docteur Paul Kapami, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Pouvez-vous tout d'abord nous dire le pourquoi de ces mouvements?
Le gouvernement congolais connaît les problèmes des médecins congolais. Mais le gouvernement ne veut pas résoudre ces problèmes, ne veut pas aider les médecins dans leurs revendications.
Quelles sont ces revendications?
Le gouvernement ne suit pas bien le mouvement des médecins au point de vue promotion en grade. Il y a eu des médecins qui ont fait des années sans avoir été promus en grade. Ils sont nommés par l'État congolais comme peut-être médecin avec numéro matricule. Mais promotion de grade, ça ne suit pas. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, on engage des médecins sans leur attribuer de numéro matricule. Il reste NU, donc nouvelle unité, pendant des décennies, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ça, ce n'est pas normal. Bon, au point de vue salaire, le médecin n'a pas de salaire, il n'a que des primes. Mais par définition, une prime, ça accompagne un salaire. Il y a d'abord un salaire fixe, et puis des primes qui suivent dans le cadre des faveurs qu'on peut donner à un agent. Mais pour le médecin congolais, non, on dit seulement que ce sont des primes de risque. Or, ces risques-là sont vraiment nombreux. Chaque fois qu'il y a une épidémie, dans une contrée donnée, ceux qui meurent d'abord en grand nombre à la ligne de front, c'est d'abord les médecins, les infirmiers et autres personnels, les balayeurs dans les centres médicaux, dans les hôpitaux, etc. S'il y a une épidémie d'Ebola quelque part, le premier malade arrive, il est vu par un infirmier, il est vu par un médecin, l'infirmier ne sachant pas que c'est l'Ebola, bon, automatiquement il va attraper la maladie et il va mourir. Et c'est ainsi que pour ceux qui regardent la COVID-19, il y a eu 200 médecins qui sont décédés en RDC.
Et concernant le transport des médecins, y a-t-il quelque chose comme revendication dans ce sens-là?
Nous avons demandé qu'il y ait quelque chose pour le transport des médecins, qu'il y ait quelque chose pour ce qui regarde le logement des médecins, mais il n'y a rien qui se fait. Vous allez vous rappeler, c'est Okapi aussi qui l'a appris, il y a eu des députés à Kinshasa qui ont eu des véhicules flambant neufs, encore des véhicules très 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 chers.
Les médecins veulent aussi des véhicules.
Bon, je ne dis pas que les médecins veulent aussi des véhicules, non, ce n'est pas tellement ça. Mais ce qu'il faut voir maintenant, dans les catégories des Congolais, dans le cadre du service, il y a des écarts trop importants. Si on pouvait peut-être gérer un peu les choses, hein, que chacun puisse voir s'il faut rabaisser un peu le salaire, mettre un peu d'équilibre et d'équité dans ce qui s'est fait, ça allait être assez bien. Mais pas quelqu'un qui vit avec 13 000, 15 000 dollars par mois, et au point un autre qui a moins de 500 dollars par mois, alors qu'au point de vue étude, au point de vue responsabilité, ce n'est pas ça les écarts qui sont vécus. Notre gouvernement, depuis des années, peut-être pas seulement le gouvernement actuel, il a quoi comme base de fixation du salaire? Est-ce que vous, les jeunes, vous le connaissez? Je ne sais pas cette base-là, c'est quoi? On donne comme ça de l'argent, ou des primes, même pas le salaire. On donne des primes seulement comme ça, au hasard, parce qu'il est de tel parti politique, il va avoir des millions, il va être nommé ambassadeur par-ci, par-là. Mais c'est ça l'équité, moi je ne sais pas. Donc bref, les médecins veulent qu'il y ait quand même une équité dans ce pays. Le gouvernement travaille sans vision, sans plan de travail. Vous allez voir un ministre qui arrive, qui est nommé là-bas, oh, il faut rajeunir l'administration. D'accord, rajeunir l'administration. Bon, maintenant, ceux qui sont là, les vieux qui sont là, ils vont aller où? Non, il n'a pas de réponse.
Ils vont à la retraite.
Ils vont à la retraite. Est-ce que toi tu en as entendu parler? Et combien de retraités qu'il y a eu? Et maintenant, s'il y a eu des retraités, qu'est-ce qu'il y a eu comme prime de sortie dans le cadre de la retraite? Nothing, rien du tout. Donc vous voyez, ce sont des gens qui sont là, lorsqu'il est nommé, il est content, il s'occupe de sa poche, s'occupe de sa famille biologique, s'occupe de sa famille politique, et il ne voit pas plus loin que ça. Ça ne marche pas. Il faut que les médecins bougent, parce que les médecins sont parmi les gens les plus instruits du pays. Alors, pourquoi est-ce que nous devons être maltraités par une autre catégorie de population?
Vous êtes médecin depuis plus de 40 ans. Je pense que vous avez toujours revendiqué vos droits. Mais qu'est-ce qui a changé depuis que vous le faites?
Bon, le CINAMED n'a pas été créé par moi comme tel, mais ça a été créé par les gens de ma génération. Alors, c'est depuis ce moment-là que nous avons commencé à revendiquer. C'est un fait que s'il y a eu la prime de risque, c'est parce que le CINAMED avait revendiqué, parce que le salaire était insignifiant. Parce que mon salaire, moi, lorsqu'on a dit qu'il faut maintenant fusionner salaire et prime, c'était 100 dollars. Que vous imaginez? Ça vous fait rire, vous aussi, hein?
Docteur Paul Kapami, je vous remercie.
Bon, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Fin de cette édition du journal, mise en onde par Dieudonné Nyangasa, coordonnée et supervisée par Élisée Tchikota. Merci de nous avoir suivis.